Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, Lille de France Bleu RCFM, Ajaccio, et en direct de la capitale marocaine, Nadira Belroutout de chaîne Inter Rabat. Bonjour Nadira.
Bonjour Thomas.
Alors le sommaire de ce numéro de Cantara, après 5 mois de blocage, le Maroc a un nouveau gouvernement à sa tête, Saadine El Othmani. Au Caire, le réaménagement du quartier insalubre, le triangle de Maspero, pose problème où reloger les 4500 familles qui y vivent. En Espagne, un observatoire de l'islamophobie a été créé. Pourquoi ? Les réponses du chercheur Alex Govers, membre de cet observatoire.
Le tourisme de santé est en pleine expansion et le thermalisme en est une des activités les plus importantes. En Corse, ce tourisme est quasiment inexistant malgré la richesse de ses sources. Portrait de femme tunisienne pour clore ce Kantara avec Habiba Msika. Chanteuse, danseuse et comédienne, Habiba Msika était une femme libre, un véritable phénomène de société dans les années 1920.
Kantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Bouedma, France Bleu RCFM, Pierre Mar et Thomas Brunet, lié Pierre-Louis Alessandre, Chaîne Inter Rabat, Nadira Belroutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Maya Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdemeguid, Radio Extérieure d'Espagne, Iman Mouazar. Notre première chanson est marocaine, c'est toi qui l'as choisie, Nadira.
C'est Mama Africa, une chanson interprétée par l'artiste marocaine Jeannette, en collaboration avec le groupe togolais Ktoufan, qui souhaite la bienvenue au Maroc au sein de l'Union africaine. Les artistes rappellent que le Maroc est chez lui en Afrique, tout en lui disant « Welcome, bienvenue dans l'Union africaine ».
Impossible n'est pas africain. Peu importe d'où tu viens, l'essentiel c'est nos liens. On est tous humains, on est tous africains.
Nous étions au Maroc et nous y restons. Le 13 mars, Sa Majesté le roi Mohamed VI a désigné Saadine El Othmani comme nouveau chef du gouvernement, levant ainsi un blocage de 5 mois. Pour la formation de son nouveau gouvernement, Saadine El Othmani a de son côté contourné tous les obstacles. Il a accepté d'y intégrer le Parti Socialiste des Forces Populaires. 6 partis politiques seront représentés dans ce gouvernement. Cela fait beaucoup. Pourront-ils accorder leur violon ? Nadira, tu as posé la question au politologue Mustapha Simi.
Le climat est effectivement différent par rapport à celui qui prévalait pendant les semaines écoulées, même les mois écoulés. Le docteur Saadine El Othmani a été nommé le 17 mars par Sa Majesté le Roi. Il a eu un délai d'une 15 jours pour mettre en place une majorité. Il a reçu tous les partis, puis il a arrêté la formule majoritaire autour de 6 partis, dont le PJD.
Est-ce que cela est de bon augure pour la prochaine structure du gouvernement, notamment pour la question de répartition des portefeuilles ?
La deuxième étape est maintenant l'accord avec ses alliés sur la configuration du futur cabinet, c'est-à-dire sa structure et la répartition des attributions entre les différents départements. Ce processus a commencé dimanche. Il s'est poursuivi lundi, il est en voie d'être finalisé. La formule retenue serait réduite par rapport à celle du cabinet sortant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus qu'une trentaine de ministres et secrétaires d'État au lieu des 39 dans le cabinet sortant. Il y aurait également une bonne quinzaine de ministres pleins, plus une bonne dizaine de secrétaires d'État. Pour l'instant, cette configuration doit être actée dans les prochaines heures et elle sera donc l'objet de délibérations, de négociations entre les différents partis. Ensuite, se posera le problème de la répartition des différents départements ministériels entre les alliés. Là aussi, ça va être un processus de négociation, de tractation. Enfin, le dernier stade sera celui de l'affectation des représentants des alliés du PJD et même du PJD dans ce gouvernement. Voilà un processus qui va être finalisé sous huitaine, c'est-à-dire probablement au début de la semaine prochaine ou plus tard.
Mais est-ce que la répartition des portefeuilles, surtout que le prochain gouvernement sera restreint par rapport au précédent, ne risque pas de créer quelques divergences ?
Il y a une première étape. Déjà, les contours de la majorité. Nous savons maintenant qu'autour du PJD, il y aura 5 alliés. C'est déjà un acquis. C'est une question qui n'avait pas été réglée pendant 5 mois par le chef du gouvernement désigné sortant, en l'occurrence, Abdelhadi Mekirem, il y avait eu un blocage déjà sur ce premier point, c'est-à-dire la dimension et la nature de la configuration majoritaire. Saad Netmani a réglé ce problème-là. Il y aura 6 partis dans le futur cabinet. Maintenant, il reste à se mettre d'accord, comme je l'ai dit, sur la structure de ce gouvernement. Ensuite, sur la mise en place de pôles, un pôle social, un pôle économique, etc., pour éviter l'éclatement du gouvernement entre différents secteurs et donc entre différents titulaires. Et puis, la question qui n'est pas simple aussi, de la désignation des différents titulaires de départements ministériels, avec les propositions des différents partis, leur agrément ou pas, la mise à plat de certains profils, adaptés ou non aux différents secteurs visés, c'est un processus difficile, qui est complexe. Disons que c'est en bonne voie.
C'était ton reportage et on souffle un peu au Maroc, hein, parce que c'est une bonne nouvelle quand même qu'un gouvernement ait été créé, mais comme le disait ton politologue, eh bien, ça fait beaucoup de monde. Hein. Alors, penses-tu que les Marocains sont confiants et vont voir un peu la sérénité revenir avec un gouvernement bien en place ?
Alors, 4 déjà de ces partis ont déjà travaillé ensemble et fait bonne équipe plus ou moins dans le précédent gouvernement. C'est une première, du moins en ma connaissance, que 6 partis soient représentés. Ça ressemble plutôt à un gouvernement d'union nationale qui sera bien sûr très fort pour faire face aux chantiers entamés au Maroc et à la résolution aussi des problèmes et des questions qui nécessitent vraiment des solutions et un travail très poussé.
En plus, Saadin Othmani est un psychiatre, donc là, il a beaucoup de patience, je pense.
Oui, et la presse marocaine a bien soulevé ça quand il a été nommé. Elle a dit qu'un psychiatre pour débloquer, bien sûr, la situation d'impasse qui a prévalu pendant 5 mois. C'est aussi une personne qui travaille avec beaucoup de sérénité. C'est un homme de compromis. Il aura certainement son empreinte particulière dans le travail du prochain cabinet qui, me semble-t-il, sera prêt peut-être la semaine prochaine. Là.
Alors, c'est un islamiste hein, d'obédience quand même.
Oui, mais c'est un islamiste modéré et bien sûr, le Maroc est un des pays qui a réussi dans la gestion des affaires, de la chose publique, les islamistes et Sa Majesté le Roi qui est le garant de la stabilité du pays. C'est vraiment bien réussi cette expérience avec les islamistes au Maroc.
Voilà, donc bon vent et réussite à Saadine Al-Othmani, qui est donc le nouveau chef du gouvernement au Maroc. Au Maroc, on va le quitter parce que nous allons en Égypte avec une chanson que nous a choisie Dina Nadira.
Alors la chanson égyptienne, c'est « Yena Yemafish, moi ou personne » de Tamer Hosni.
Yena Yemafish, asli ma'andish, fil hub hizar. Yena yabalash, wa ma tahsibhash, ma fihash a'zar.
Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Nous étions en Égypte, nous y restons. Le réaménagement du quartier insalubre du Caire, le triangle de Maspero, ne fait pas l'unanimité. Le 11 mars, un meeting populaire a réuni plusieurs responsables et les habitants du quartier à la recherche de compromis. Le gouvernement vient de relancer le projet de réaménagement du triangle de Maspero. Il souhaite à présent évacuer cette zone, mais les habitants, 4500 familles, sont réticents. Après la révolution du 25 janvier, un ministère pour le développement des bidonvilles a été créé. Il a curieusement été supprimé peu après. Quel est exactement le problème et quelles sont les propositions du gouvernement? Le point avec Dina Abdelmeguid.
Le gouvernement a relancé son projet de réaménagement du triangle de Maspero. Le projet consiste à construire une zone résidentielle, commerciale et hôtelière dans cette zone située sur la corniche du Nil, derrière le bâtiment de la radio-télévision. Il ne s'agissait pas de la première tentative du gouvernement de régler la situation du triangle de Maspero. Depuis les années 1990, les gouvernements successifs ont promis de réaménager cet ancien quartier dont les bâtiments sont en très mauvais état. Le gouvernement souhaite à présent évacuer cette zone, mais les habitants sont réticents. Les 4500 familles de ces quartiers refusent en effet de quitter leur domicile. La plupart des habitants vivent dans des conditions modestes, ne disposant que d'une seule chambre avec salle de bain partagée. Malgré ces conditions de vie, les habitants restent attachés à leur quartier où ils habitent depuis de nombreuses années, explique Mahmoud Salem, un de ses habitants. Je suis né dans ce quartier et je ne le quitterai pas jusqu'à ma mort. Quelle solution nous propose le gouvernement? J'habite avec ma famille dans un appartement de deux chambres. C'est injuste de nous obliger à payer 300 livres par mois pour un appartement similaire à l'Asmarat. Nous sommes pauvres. Comment peut-on payer ces sommes? Les solutions proposées par le gouvernement ne prennent pas en considération les faibles revenus des habitants. Le gouvernement veut évacuer les habitants coûte que coûte. Les responsables ont proposé aux habitants trois propositions. Le relogement des habitants dans la ville de l'Asmarat près de Mokattam. Pour ceux qui décident de louer les nouveaux appartements construits dans la zone, une indemnisation. Pour ceux qui refusent les propositions, un comité examinera leur situation au cas par cas. Mais ces solutions ne satisfont pas les habitants. Mon travail se trouve à la place Tahrir, à quelques pas de chez moi. Je n'ai pas besoin de payer pour les moyens de transport. J'y vais à pied. Pour quelle raison l'on me demande d'aller habiter dans une région lointaine où les foyers sont élevés et où je vais devoir payer des frais de déplacement? Ce n'est pas de la faute des habitants si ce quartier est bien placé. Tout le monde le sait, des investisseurs arabes veulent acheter les terrains de ce quartier situé dans une zone très privilégiée. Le prix du mètre carré est maintenant très élevé, mais on ne quittera pas notre quartier, nos maisons et notre vie ici. D'une superficie de 303 000 m², le triangle de Maspero est considéré comme un emplacement stratégique. Il est situé au centre-ville entre la rue Galaa, la corniche du Nil, la place de Abdelmanam Riyad et Boulak Abou Laila. Depuis de longues années, il y a une quasi-absence de contrôle de la part des autorités qui a permis aux habitants de s'emparer des dizaines de terrains et d'y construire d'une manière anarchique. Aujourd'hui, ils se considèrent comme propriétaires de terrains qui ne leur appartiennent pas. Face au refus des habitants, les responsables ont quitté les lieux sans parvenir à un accord.
Le Caire qui est en train de faire sa mutation, et il y a ce quartier, ce triangle de Maspero, il faut faire quelque chose. Et là, c'est vrai que Nadira, c'est compliqué car 4500 familles à reloger, c'est pas évident.
C'est pas évident et en plus, il y a le prix du foncier qui a augmenté partout dans le monde, je suppose même en Égypte. Et comme ce sont des familles pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller acheter des maisons et quand on sait que les prix sont exorbitants. Ici au Maroc, on a réussi un peu l'expérience de la suppression des bidonvilles. Ça fait entamer il y a une quinzaine d'années. Et avant de déloger les gens, on leur propose des terrains et l'État construit des maisons. On appelle ça le social qui ne coûte pas cher. Et bien sûr, ça permet de reloger les personnes qui ont été déplacées des bidonvilles.
Et oui, la pression immobilière doit être énorme, hein. Centres commerciaux, résidences, hôtels. Donc il y a beaucoup de choses en projet, mais c'est vrai qu'il y a 4500 familles à reloger. Et quand on leur propose de les reloger à des dizaines de kilomètres de ce lieu, c'est difficile à accepter. Bon, on va suivre le dossier parce que c'est quand même un dossier sensible dans cette ville du Caire qui est en pleine mutation. Donc on suivra ce dossier, bien entendu, dans Kantara. Avant de passer au sujet espagnol, on va écouter une chanson que nous a choisie Iman Noizar. C'est Miss Caféina qui nous la chante et son titre c'est Rigantes.
La 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 la. Se me está haciendo difícil eso de viajar hacia la luz en dirección opuesta a ti. Se me hace tan extraño. He cambiado los zapatos, va más de mí. Tu ausencia se nota de lejos y duele aún más a dos metros. La 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 la. Desperdicio los momentos. Es mi estúpida misión. No hay más que hablar. La tensión y los defectos. No me quiero anticipar. No seré yo. La magia ha salido corriendo y se ha condensado en el tiempo. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón. La razón se pierde al decibelio soportable quejarte. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. Intentaré hacerme el interesante por ti. Ya sabes lo que dicen de los grandes gigantes. La 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 la. Te parece tan sencillo y a mí todo un corredor o una olla express. Lo profano y lo divino transformado en un misil o un corte inglés. La lluvia se ceba en tu cara y yo disimulo las ganas. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón la razón. Se pierde el decibelio insoportable que arde. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. Intentaré hacerme lo interesante por ti. Ya sabes lo que dicen de los grandes gigantes. Tú que perdiste la fe en una sala de sal. No tienes perdón de Dios. No tienes nada que hablar, que decir. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón, la razón. Se pierde el decibelio soportable que arte. No ganaré, apostaré por mí, no soy cobarde. Intentaré hacerme el interesante por ti. Ya sabes lo que dicen de los grandes gigantes. La la, la 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 la, la 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 la.
C'était Miss Cafeína, une chanson espagnole, Regantes. Et maintenant, on reste en Espagne, Nadira.
Alors en Espagne, Thomas, l'Institut européen de la Méditerranée de Barcelone a lancé récemment un observatoire de l'islamophobie. Notre invité est le chercheur Alex Govers, membre de cet observatoire qui a tenu sa première rencontre la semaine dernière.
On dit très souvent, ici, en Espagne, il n'y a pas de problèmes de ce genre. La preuve qu'après les attentats du 11 mars, il n'y a pas eu à proprement parler de représailles ni de stigmatisation. Et alors on peut se demander pourquoi un observatoire de l'islamophobie.
Ben, tout d'abord, en fait, je pense que bon, il faut rappeler aussi un peu l'histoire de l'Espagne, qui est en fait assez particulière, parce que on peut pas dire que l'islamophobie est juste apparue en Espagne à partir des attentats de Madrid, par exemple, ni encore du 11 septembre aux États-Unis. C'est bien apparu bien avant. L'Espagne a une histoire, en fait, avec le monde arabe et l'islam depuis très longtemps. Rappelons l'Andalus, non ? Huit siècles, en fait, l'Espagne, le territoire espagnol à ce moment-là, était musulman, non ? Donc, on a, en fait, toute une histoire en quelque sorte avec le monde musulman. L'Espagne a aussi, en fait, à travers aussi l'influence européenne avec la colonisation, on a tous un peu cet imaginaire orientaliste qui vient déjà depuis très loin, non? Et aujourd'hui, en fait, ça s'est accentué un peu avec les événements qui sont passés depuis le 11 septembre, etc. Et on peut remarquer qu'aujourd'hui, en fait, l'islamophobie est très très présente, pas seulement au niveau des médias évidemment, mais dans des autres sphères, dans la sphère publique, parce que évidemment il y a une sorte d'islamophobie qui est un peu structurelle, qui est présente en fait dans l'espace public et dans les moyens de communication. Mais on pense aussi que en fait on part du constat que l'islamophobie est quelque chose un peu de un phénomène qui peut être involontaire. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, par exemple, que les moyens de communication veulent à tout prix, en fait, représenter le sujet musulman comme mauvais, comme violent, etc. On pense, en fait, un peu le contraire. On pense que l'islamophobie, ça part de pas nécessairement une intention mauvaise, mais sinon d'une méconnaissance, en fait, de certains termes, de certaines terminologies, de certains lexiques, en faisant, en fait, une certaine généralisation qui, en fait, ne répond pas à la société comme elle est aujourd'hui, à cette réalité diversifiée comme elle est aujourd'hui. Parce que, bon, évidemment, on peut voir comment les moyens de communication, parfois, reflètent un islam avec un grand I en majuscule, comme une quasi une personne, en fait, qui agit, alors que, bon, ça ne représente pas, en fait, la diversité au sein même de l'islam, des communautés musulmanes, des personnes qui s'identifient comme musulmanes.
Je vais citer un cas. Elles sont citées de nom, mais enfin, bon, il se reconnaîtra. Un directeur de presse qui, il y a quelques jours, dit « Le musulman naît en tuant. C'est une vérité. »
Oui.
Ça, c'est le genre de dépassement que vous proposez de relever et de dénoncer ?
Oui, évidemment. il faut bien penser, évidemment, que ça, on peut considérer ce fait-là comme une sorte de généralisation, une sorte de généralisation qui en fait produit l'islamophobie, évidemment, mais ça reste une opinion. Donc ça, nous, évidemment, on est en désaccord avec ce genre d'opinion, parce que nous, on va se centrer vraiment sur la diffusion d'informations, hein, oui. C'est-à-dire que l'Observatoire va essayer d'analyser en fait comment certains événements sont représentés dans les médias. Donc on part en fait, l'Observatoire va partir de deux lignes de travail. Donc la première, c'est une sorte de diagnostic, un aspect plus quantitatif, pour essayer d'évaluer comment la presse écrite représente certains événements avec un certain type de terminologie, de lexique et d'image, avec la finalité d'avoir un rapport vers l'automne, plus ou moins, avec tous ces types de terminologie qui ressort le plus, et essayer donc, en deuxième partie, d'essayer d'écrire un manuel de bon usage, en fait, en collaboration avec les associations, les journalistes et les académiciens, pour essayer de produire une terminologie alternative, en fait, qui n'est pas, stigmatisante.
C'était le reportage d'Iman Wazar sur la création en Espagne de cet observatoire de l'islamophobie, un observatoire qui va avoir un rôle important à jouer. C'est vrai que le racisme ordinaire, eh bien, remplit les ondes, les écrans et la rue. C'est vrai qu'on entend des fois des réactions qui sont assez surprenantes. Et il faut quand même de temps en temps remettre un peu les gens sur les bons rails. En tout cas, c'est un peu le but de cet observatoire qui me semble une bonne idée. Et pourquoi pas créer ce genre d'observatoire partout en Europe.
Ben, je pense que cet observatoire pourrait jouer un rôle très important. Il peut permettre d'harmoniser les forces entre gouvernement, ONG, dans la poursuite d'approches inclusives face à la division. Il peut aussi établir des plateformes stratégiques pour soutenir le dialogue entre les communautés. On sait que en Espagne, comme partout en Europe, et surtout en Espagne, il y a une très forte communauté arabe et musulmane. Et des instances comme ça peuvent aussi permettre d'expliquer un peu les politiques antiterroristes et expliquer que ces politiques ne sont pas destinées juste à instaurer des dispositifs sécuritaires, mais ils peuvent vraiment jouer un rôle de dialogue et d'inclusion des communautés afin de permettre le vivre ensemble dans la paix et la quiétude.
Alors après l'Espagne, on va passer à la Corse avec une chanson d'abord du groupe Cantabu Brugurzu. Cette chanson s'intitule Domanda ou Domanda, ça veut dire demander.
Vous écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée.
Solo domando ad Allah, chi a lingua sia viva e presenti, torna come tanto una urgenti, la tramanda domani nosciramenti. Solo domando ad Allah. Mano gli sparchi dove pianti, rugendo a natura tralucenti, si è lampato a mezzo ai fiari dolenti. Solo domando ad Allah, chi ho stato bugiardo e prepotenti, sua sarà minugenti, prendissi ciò chi ci ha preso ingiustamente, chi ho stato giardo e prabudenti, prendissi ciò chi ci ha preso ingiustamente. Solisti stessi canova e chi sfarenti.
gamba figli e uniti eternamente a ogni speranza di ameglienti di gamba figli e uniti eternamente.
C'était Kanta Bobulugours, on reste en Corse, Nadira.
Le tourisme de santé est en pleine expansion et le thermalisme en est une des activités les plus importantes. En 2016, on a dénombré plus de 600 000 curistes en France et le chiffre d'affaires dans ce domaine dépasse largement les milliards d'euros. Mais dans ce tourisme, la Corse est inexistante malgré la richesse de ses sources. Pierre-Louis Alessandri.
La Corse est riche en eau minérale, on dénombre 43 sources, mais plus des trois quarts sont inexploités. Trois grandes marques d'eau minérale occupent le marché et sont exportées sur le continent, mais un seul établissement thermal est agréé par l'Académie de médecine, celui de Pietrapol, établissement à gestion publique par la mairie, situé dans la plaine orientale insulaire, mais il souffre d'un manque d'équipement hôtelier, bien que fréquenté chaque année par 200 curistes qui viennent du continent. Les deux autres ont développé un tourisme ludique à dominante thermale. L'un est public, celui de Baracci, sur la commune d'Olmette, dans l'extrême sud de la Corse, géré par la mairie. Il se situe sur un domaine de 25 hectares. Son maire, José Pierre Mozzigonacci.
C'est différent de l'établissement thermal, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'agrément, notamment de la sécurité sociale, et donc on ne peut pas parler de cure thermale avec des remboursements sécurité sociale. Nous avons une eau qui a souvent les mêmes vertus, mais qui aujourd'hui n'a plus l'agrément, ce qui est très compliqué à récupérer et qui donc nous oblige en quelque sorte, vu l'état des finances de la sécurité sociale, à nous axer sur du thermoludisme, c'est-à-dire, bien sûr, le mot ludisme, tout le monde sait ce que ça veut dire, dans des eaux thermales qui associent donc le soin au bien-être et au ludisme. Ils sont fréquentés aujourd'hui, il faut quand même savoir, depuis le 7 juillet 2014, l'établissement n'a plus fermé, et c'est vrai que nous avons une fréquentation avec une évolution exponentielle à double chiffre, avec des augmentations de pratiquement 100% tous les ans depuis 2014, et avec une dernière année 2016, avec plus de 25 000 entrées et cures qui ont été réalisées sur le site. Il commence aujourd'hui à être rentable.
L'autre établissement est privé, Egaldan, et sur la commune de Sainte-Lucie de Talane. Il s'adresse beaucoup plus à un tourisme classique, avec mini-golf, activités diverses, restauration et logement, mais en conservant une dominante tout de même thermale. Carole Perron, une employée.
En fait, on a un bassin d'origine qui date de l'époque romaine, qui a une âme, qui a une histoire. Tous les gens du village ont leur petite anecdote par rapport à ça. Et si vous voulez, comme on a une fréquentation, un taux de fréquentation qui est quand même assez exceptionnel l'été, il a fallu trouver une solution. Et ça va faire 5 étés que nous avons fait comme les Romains. On est allé chercher la source et en 2 fois, on a creusé un bassin. Si vous voulez, actuellement, on a 3 bassins. Le bassin d'origine et les 2 bassins qui vont avoir 5 ans cet été. On draine vraiment un public très, très mélangé. Beaucoup de touristes, beaucoup, beaucoup de touristes l'été, mais les gens du coin sont fidèles. Hein. Et on a des gens qui viennent de Bastia, d'Ajaccio, régulièrement, de Porto-Vecchio. Ici, qu'on ait 2 ans ou qu'on ait 102 ans, chacun trouve son univers.
Le thermalisme en France est constitué de 105 établissements, une moyenne de 10 millions de journées de soins délivrées chaque année et prises en compte par l'assurance maladie. Le tourisme thermal a drainé en 2016 près de 600 000 curistes. La région Occitane est celle qui en a accueilli le plus, avec ses 185 000, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. C'est la rhumatologie qui connaît le plus de succès. La Corse n'apparaît pas dans ce classement malgré ses atouts et la collectivité territoriale a décidé, à travers sa commission du développement économique, de favoriser de nouvelles orientations. Mais la difficulté la plus importante est d'obtenir l'agrément de l'Académie de médecine. Nadine Nivagioni, présidente de la commission, détaille les orientations.
La première, c'est la mise en place d'une gouvernance réelle. Il faut pour ça un point d'entrée unique. Deuxièmement, c'est la structuration de la filière. Donc il faut identifier toutes les activités, tous les acteurs de cette filière, les faire travailler ensemble, les responsabiliser et leur donner la responsabilité de faire vivre cette filière, c'est-à-dire de se coordonner aussi. Ensuite, il y a à définir l'offre touristique. Ça, il faut absolument lui donner une caractéristique et une typicité qui correspondent à nos politiques publiques et à notre territoire. Ça, c'est indispensable. Ensuite, c'est déterminer la place de la puissance publique. Est-ce qu'on veut aller vers des projets exclusivement publics ? Est-ce qu'on réfléchit à des financements et des portages publics-privés, je pense qu'il faut se poser cette question, sinon ça sera des puits sans fond.
La mer n'est pas le seul point attractif pour le touriste. Le thermalisme, on le voit, peut élargir l'activité, d'autant que l'allongement de la vie met sur le marché de plus en plus de seniors, potentiels consommateurs de cure.
C'est un sujet bien intéressant qu'a développé Pierre-Louis Alessandri. Le thermalisme, les sources, etc. C'est vrai qu'il y a un gros marché, un gros potentiel, notamment dans le secteur du tourisme. Et les exemples pris dans ce reportage avec les bains de Baracci sur la commune d'Olmeto, qui sont une réussite. Il y a aussi l'exemple encore plus anciens des bains de Caldane qui sont une véritable institution dans le Sartenay. Et puis, il y a des sources qui sont complètement abandonnées. Je pense à celle de Caldanich, tout près d'Ajaccio, donc qui pourrait avoir une clientèle importante. Donc c'est vrai, c'est un secteur à développer. Alors, qu'en est-il au Maroc aujourd'hui, Nadira ?
Alors, au Maroc, nous avons aussi des sites. Nous avons par exemple Moulay Aqoub, une source chaude qui est très fréquentée. Bien sûr, il y a une structure, infrastructure très importante qui se modernise tout le temps. Nous avons dans le désert les bains de sable. Je crois que c'est demandé ici au Maroc parce que les prix ne sont pas très élevés. Bien sûr, il y a différentes stand-ins, mais les prix sont quand même abordables.
Très bien. Alors, avant d'aller prendre un bain et un bain de boue ou un bain de sable, on va aller en Tunisie avec d'abord une chanson que nous a choisie Mayada, Nadira.
Mayada Sahili nous propose un hommage à une diva, Saliha. Elle est l'une des plus grandes et des plus aimées des artistes tunisiennes. Et la chanson est Yalaymi Al-Zin. Elle est interprétée par l'orchestre féminin Al-Azifat, dirigé par Amina Srafi, première femme chef d'orchestre de Tunisie et de l'ensemble du monde arabe.
Thank you.
Après, la diva Maya Dassili nous propose un retour au début du XXe siècle pour découvrir l'une des personnalités artistiques les plus adulées en Tunisie et en Afrique du Nord, Habiba Msika. À la fois chanteuse, danseuse et comédienne, Habiba Msika est le prototype de la femme libre et maîtresse de son destin, un véritable phénomène de société dans les années 20.
Tunis au début du XXe siècle, c'est le début de la révolution Habiba Msika, comme l'ont appelé certains de ses biographes. Chanteuse tunisienne charismatique, danseuse et comédienne audacieuse, Habiba Msika, née Marguerite Msika, est un véritable phénomène de société à son époque. Marguerite Msika est née en 1893 dans le quartier juif de Tunis. Grâce à sa tante, elle suit des cours de chant, de solfège et d'arabe classique auprès du célèbre compositeur Khmeïs Ternen et du ténor égyptien Hassan Banen. Marguerite se mêle aux Tunisiens arabes et prend pour pseudonyme Habiba, la bien-aimée. C'est ainsi qu'est née Habiba Msika. La carrière de Habiba Msika décolle à partir des années 1920. Elle fut la première à imposer le chant solo et faire admettre à une opinion publique des plus réticentes que chanter est un moyen comme un autre pour une femme de gagner sa vie. Sophie Bessis, historienne et journaliste franco-tunisienne, dresse un portrait de l'artiste dans son livre « Les valeureuses, cinq tunisiennes dans l'histoire » paru chez Elizade.
J'ai voulu prendre un personnage féminin du monde du spectacle. Parce que le monde du spectacle est par définition un monde de la transgression pour les femmes. C'est les femmes libres, les femmes qui ne suivent pas les règles de la société. Et là, j'ai beaucoup hésité. Parce que la première moitié du XXe siècle en Tunisie a eu de grandes femmes chanteuses. J'ai beaucoup hésité. La raison pour laquelle j'ai choisi Habiba Msika, c'est que c'est une femme complètement mythique. Bon, d'abord parce qu'elle a eu une mort tragique. Et puis, Habiba Msika n'est pas considérée comme une très grande chanteuse. C'est pas une des plus grandes voix de la Tunisie de l'époque, mais ça a été une très grande tragédienne. Et dans les années 1920, le théâtre tunisien est d'une richesse tout à fait extraordinaire. Et si je l'ai prise aussi, c'est pour montrer que cette vie artistique tunisienne à l'époque était transconfessionnelle. Aussi, c'est une artiste juive et elle n'a joué, elle n'a chanté que en langue arabe, exclusivement. Mmh. Et j'ai voulu montrer par là comment, en fait, les barrières confessionnelles n'étaient pas si solides qu'on a pu le dire.
La carrière artistique de Habiba Msika a duré une dizaine d'années. C'était les années folles, entre 1920 et 1930. En avril 1920, Habiba Msika décroche son premier rôle dans la pièce Salah ed-Din du Libanais Najib El-Haddad, où elle interprète Julie avec Mohamed Bourguiba comme partenaire dans le rôle de Richard Cœur de Lion. Quelques mois plus tard, elle joue dans Othello de Shakespeare, traduit en arabe classique. En 1921, elle joue dans Le médecin malgré lui de Molière et l'année suivante, elle interprète le rôle de Leila dans la mythique Majnoun Leila. On la voit également dans plusieurs autres représentations et sa réputation franchit les frontières tunisiennes. Elle entame dès 1923 une carrière internationale qui la conduit dans plusieurs pays de la région ainsi qu'en Europe. C'est avec l'avènement de Habiba Msika que se propage aussi le phénomène de Asker el-Lil ou soldats de la nuit. Des jeunes hommes de la bourgeoisie tunisienne qui se sont improvisés comme supporters de la vedette. Fans mais aussi protecteurs de la maréchale, ces jeunes vaquaient à leurs occupations dans la journée et se retrouvaient le soir autour de la chanteuse. Cet esprit finira par faire boule de neige et motiver toutes les vedettes de la place. Chacune d'elles ne se déplaçait qu'entourée de son propre bataillon de Asker el-Lil. Critiquée pour ses rôles masculins, mais aussi pour avoir joué le rôle du prophète Youssef, Habiba Msika a été connue aussi pour ses sympathies nationalistes. Sophie Bessis.
Elle était transgressive parce qu'elle jouait des rôles masculins.
Masculins aussi.
Au théâtre. Ouais. Donc elle a joué le rôle de Joseph et elle a joué le rôle dans L'Aiglon. Parce que son idole c'était Sarah Bernhardt et donc elle a joué le rôle du duc de Reichstadt dans L'Aiglon et donc évidemment à l'époque jouer des personnages masculins c'était pas très bien vu par les milieux conservateurs et elle avait été très attaquée. Un personnage qui a joué un rôle très important dans le théâtre tunisien des années 20 c'est le frère aîné d'Habib Bourguiba, c'était Mohamed Bourguiba qui a consacré sa vie au théâtre. Et ce qui est extraordinaire à l'époque, vraiment, c'est que tout le répertoire classique européen, entre autres, hein, vous aviez évidemment également le répertoire égyptien, libanais, etc., ouais. mais était traduit en arabe et le théâtre était populaire. Il y avait plusieurs salles de théâtre à Tunis. C'est pour ça que les actrices étaient des personnages très populaires. Quand Hepburn Msika est morte, il y a eu 15 000 personnes qui sont allées à son enterrement.
Au matin du 20 février 1930, Habib Msika a péri dans un incendie provoqué par un amoureux éconduit. Une fin tragique pour une figure mythique de ces années 20, pour celle qu'on appelait aussi Habib Tlikol, l'aimée de tous.
Quelle belle histoire que nous a racontée Mayada Sili, l'histoire de cette star des années 20 en Tunisie qui se déplaçait avec sa bande d'admirateurs tous les soirs. Et c'est vrai que c'était une très belle histoire avec un très beau reportage qui malheureusement finit mal. Mais comme souvent, les belles histoires, elles finissent mal, ma chère Nadira.
Oui, et il faut dire, Thomas, que plusieurs femmes arabes, je pense ici au Maroc, à des femmes qui ont marqué l'histoire. Et à l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de Facebook, des femmes, des guerrières amazighes qui ont dirigé des armées, des femmes de rois et de sultans qui ont été de grandes conseillères pour leur mari. Et je pense aussi à une femme qui a eu le même destin tragique, je pense à Aïcha Chaouni. C'est la première pilote marocaine dans le monde arabe qui a piloté un avion dans la fin des années 50 et qui a été tuée par un certain Ahmed Touil qui était fou amoureux d'elle. Je pense aussi à une grande chanteuse des années 50 peut-être, elle s'appelle Kharboucha, une fervente opposante à un grand dignitaire qui s'appelait Qaïd Issa, qui l'a emprisonné, qui l'a vraiment rendu la vie très dure. Mais dans la poésie, sa poésie, Kharboucha, vraiment, on y trouve toute l'histoire de ce Qaïd qu'elle a vraiment dépeint. Et grâce à son référentiel, on peut se faire une idée sur une certaine étape de l'histoire du Maroc.
Voilà, après ce reportage, ce beau reportage de Mayada Sili, on va écouter une chanson franco-algérienne avec Grand Corps Malade et Reda Taliani. Cette chanson s'appelle tout simplement Inch'Allah.
C'est un son plein de sourires dans un climat tendu qui espère et respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages.
Et si on chantait pour toutes les couleurs, on va faire danser les corps.
Partage et rassemble, c'est les beaux quartiers qui dansent avec les grands ensembles. Ceux qui souhaitent un pays convivial, alors ils croient en une autre identité nationale. C'est le son qui rêve en réalité, change les mentalités, tue l'amorosité. Il invente, imagine et renverse les clichés établis et oublie leur tristesse. Tous les codes sont bannis, révisés, on mettra des baguilles jusqu'à l'Élysée. Plus de quotas dans le foot ni ailleurs, peu importe la couleur, on gardera les meilleurs. Les blaireaux, les fachos, c'est la même, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes.
Comme chaque semaine, notre agenda culturel et on commence par l'Espagne. La mairie de Malaga invite à une exposition sur Cervantes dans son Patio de la Fuentes. L'exposition s'intitule « Malaga et Cervantes, l'épée et la plume ». Le lieu choisi nous transporte directement en Méditerranée, là tout proche à quelques 50 mètres du fabuleux front de mer récemment rénové, juste en face de la mairie de Malaga.
Dans le cadre du festival des CAF des arts contemporains, la compagnie théâtrale indépendante Al-Warsha du metteur en scène Hassan Al-Ghertili, célèbre au théâtre Al-Falaki du Caire, ses 30 ans en Égypte à travers une exposition de photos qui dépeint son parcours artistique jusqu'au 8 avril de 10h à 21h, sauf vendredi et samedi, rue Falaki, centre-ville du Caire.
L'initiative artistique Matza inscrit les îles tunisiennes de Kerkéna à son programme. Une dizaine d'artistes de Tunisie, de Suisse, de France, de Belgique est réunie à Kerkéna pour travailler sur les enjeux de la mer Méditerranée, et cela jusqu'au 9 avril. En lien étroit avec les habitants de l'île, cette initiative part de l'art et de ses pratiques contemporaines pour s'intéresser à la pêche comme moyen de subsistance et à la mer comme véritable espace commun et lieu de partage. Matza est une initiative internationale fondée par l'artiste suisse Séverin Guelpa, qui repose sur une approche pluridisciplinaire et la construction de processus collectifs, en partant du patrimoine culturel important de Kerkéna, notamment lié à la pêche traditionnelle. Matza souhaite construire sur le long terme un lieu unique consacré à la création et à l'innovation, et non seulement artistique, mais également environnementale et sociale. Ce travail sera ensuite présenté à Tunis lors d'une exposition au Musée national du Bardo à partir du 15 avril.
Rabat abrite du 3 au 5 avril le prochain la troisième édition du festival Layel El Ouns, avec la participation de grandes figures de la chanson marocaine et arabe. Le festival est organisé à l'initiative de l'association Orchestre Symphonique Marocain de Musique Authentique, en partenariat avec le ministère de la Culture, le Théâtre National Mohamed V. Il va rendre hommage à une pléiade d'artistes, dont la chanteuse Leïla Rofran, et les chanteurs Hussein Al-Jasmi et Mahmoud Al-Idris.
Du 7 au 9 avril, la ville d'Ajaccio, dans le cadre de son festival Cinéma et Pouvoir, vous propose le thème Napoléon invite Naples. Projections de films cultes, conférences, expositions seront au programme à l'espace Diamant d'Ajaccio. Les cinéphiles seront heureux de revoir Naples au baiser de feu avec Tino Rossi ou Main basse sur la ville de Francesco Rosi. Voilà, ce numéro de Kantara se termine. On rappelle que Kantara est une coproduction Radio Le Caire, Radio Extérieur d'Espagne, RCFM, France Bleu RCFM, Chaîne Inter Rabat, Chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale. Ajaccio, ce Kantara était réalisé par Stéphane Casalonga.
Et à Rabat, Thomas, il était réalisé par Mohamed Chfoui et Mohamed Al-Hirsch.
Alors n'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour écouter ou réécouter votre magazine. Au revoir Nadira, au revoir à tous, à la semaine prochaine.
Au revoir Thomas, au revoir à tout le monde, à la semaine prochaine.